Le développement durable, c'est bien plus que faire du recyclage. Ça touche trois grandes sphères, l'environnement, l'économie et la vie sociale. Et saviez-vous qu'elles sont intimement reliées entre elles? Plus important encore, saviez-vous que le développement durable, ça aide à créer un monde meilleur maintenant et pour les générations à venir? Bienvenue dans le balado « Embarquer vers le développement durable grâce aux jeunes intervieweurs ». Série spéciale dédiée au développement durable est réalisée par la Société d'aide au développement des collectivités de Nicolet et Bécancour, la SADC, et rendue possible grâce au financement de la Fondation Alcoa et du partenariat de la radio via 95. Avec l'aide des élèves de l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets, plus précisément la Brigade, un groupe d'élèves de différents niveaux du secondaire qui ont à cœur l'environnement local, et avec l'implication de Marlène Dubois, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, quatre entrevues ont été réalisées avec des entreprises et organismes des MRC, Nicolet Yamaska et Bécancour, qui ont intégré les pratiques du développement durable. Ces organisations ont toutes été accompagnées par des conseillers en développement durable de la SADC de Nicolet Bécancour via le programme ProAction. Chacun de nos épisodes vous présente une entreprise ou un organisme qui a décidé d'implanter le développement durable dans son milieu de travail pour s'assurer d'un avenir prometteur aligné avec ses valeurs profondes. Ici Martine Vidot, conseiller stratégique en développement durable de la SADC de Nicolet Bécancour. Il me fait plaisir de vous présenter cet épisode avec la participation de Louis-Vincent Legault, copropriétaire de l'entreprise Entre Fleuves et Brebis de Saint-Pierre-les-Béquets. Bonne écoute!
Salut Marissa, ça va bien?
Oui, très bien, et toi?
Oui, je sens que l'été va arriver à grands pas et qu'on pourra bientôt manger de la bonne crème glacée dehors.
C'est vrai. D'ailleurs, je connais une superbe crèmerie située sur le bord du fleuve à Saint-Pierre-les-Béquets.
Ah oui? On pourrait y aller?
Oui, et on pourrait même aller voir les moutons et les alpagas derrière la crèmerie.
Wow, ils ont des animaux aussi. Est-ce que c'est juste pour le tourisme ou est-ce qu'ils s'en servent pour autre chose?
Je ne sais pas exactement. J'ai remarqué qu'ils font plein d'initiatives pour réduire les déchets et éviter le gaspillage aussi.
Ok, mais est-ce que leurs produits sont bons?
C'est une crèmerie très bien notée. Elle vaut bien le petit détour.
Qu'est-ce que t'en penses qu'on aille chercher Naïma pour en savoir plus sur leur vacation?
C'est une très bonne idée.
Bonjour à tous, je suis Naïma Gagnon, jeune journaliste de Seigneurie. On est accompagné de Louis-Vincent Legault, qui a la crèmerie Entre Fleuves et Brebis avec sa conjointe Marie-Ève Lantin depuis 8 ans maintenant. Bonjour Louis.
Salut.
Mes deux acolytes, Floriane Binette et Marissa Girouard, sont également avec nous. Bonjour les filles.
Bonjour.
Louis, on remarque qu'à la crèmerie Entre Fleuves et Brebis, vous avez été avant-gardiste pour poser des gestes qui réduisent considérablement les emballages, comme d'avoir la vaisselle réutilisable. Pouvez-vous nous expliquer d'où est venue l'idée d'offrir une alternative aux jetables à vos clients?
Bien, ça vient d'une constatation que ça faisait des immenses sacs de poubelles de trucs jetables. Donc, on a fait un test avec toute la petite porcelaine qu'on avait, qui venait avec l'achat de la maison. Puis, des gens nous en ont donné aussi. Fait qu'on s'est retrouvé avec un tas de petites tasses, de petites coupes. Puis après ça, on a tranquillement évolué. On a fait les pailles, on a fait les napkins. Fait que là, on s'est retrouvé qu'on était capable d'offrir tous nos produits dans du lavable plutôt que d'avoir acheté des contenants pour mettre ça dedans qui étaient utilisables seulement une fois et non réutilisables.
Est-ce que vous posez d'autres gestes de ce style-là pour réduire les déchets ou le gaspillage?
Bien, effectivement, on a maintenant, grâce à un partenariat avec quelqu'un, un panier PP de Saint-Pierre, on a maintenant le contenant à usage unique, mais qui est compostable. Donc ça, c'est une amélioration qu'on a eue avec les années. Et puis, on essaie de passer tous les résidus de lavage ou les trucs qui sont non comestibles, on passe ça aux animaux qui sont à l'arrière, soit aux moutons, soit aux poules ou les alpagas, là, dépendamment de qu'est-ce qu'il y a. Ou si ça peut être aussi mis au compost.
En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous inspire à poser ce genre d'action-là?
Bien, c'est sûr que c'est vraiment déprimant de sortir plein de poubelles le mardi, la journée des poubelles, puis c'est quelque chose qu'à quelque part on a payé, puis que ça a servi une fois, puis là on le jette. Alors que les petites tasses, on les lave, les gens trouvent ça intéressant. Tu sais, ça reste quand même plus intéressant de manger quelque chose dans du lavable, dans une vraie vaisselle, que dans un truc en plastique avec une petite cuillères en plastique. Puis, c'est ça. Puis, il y a le côté monétaire aussi. Je sais que les fois qu'il y a un contenant, ça peut être 50 sous. C'est pas beaucoup, mais si on vend 100, 200, ça fait des centaines de dollars qui peuvent partir dans une journée juste pour mettre un produit dedans.
Bonjour, Louis. J'ai une question également. J'aimerais savoir quelle a été la réaction de vos clients au départ quand vous leur avez proposé des contenants réutilisables du début à aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que les mentalités des clients ont évolué?
Bien, c'est certain que c'est quelque chose qui est, c'est une habitude à prendre. Donc, au début, les gens étaient un petit peu surpris. Tu sais, vous offrez du réutilisable. Puis, même au début, comme un peu comme quand je vous parlais, on a fait des napkins au début. Puis là, il y a des gens que ça marchait pas, les napkins, pour eux, de penser qu'il y avait quelqu'un qui s'était essuyé la moustache avec la napkin, puis qu'on l'avait lavé, puis qu'on la redonnait. Ça fonctionnait pas. Fait qu'on a abandonné les napkins à cause de ça. Mais pour la vaisselle, ça allait amener d'autres choses. Comme je vous expliquais tantôt, les gens se sont mis à nous amener de la porcelaine, mettons, de leur grand-mère qui décédait ou de quelqu'un qui vidait maison. Fait qu'on en a plus qu'on en a de besoin. Puis les gens étaient tous, mais est-ce que vous les gens les cassent, ils partent avec chez eux, mais le c'est minime ce qu'on a de cassé. Puis à ma connaissance, on a très, 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 très peu de vols. Je peux même pas te dire si j'ai souvenir qu'on s'est volé de la vaisselle, là. Fait que c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une belle habitude qui s'est prise. Puis les gens sont fiers. T'sais, tout le monde est un peu conscient que d'utiliser quelque chose pour le jeter tout de suite après, c'est pas intéressant.
Oui, je suis bien d'accord. Avez-vous déjà rencontré des freins ou des obstacles dans vos initiatives environnementales et comment vous êtes-vous ajusté?
Mais tu sais, c'est un marché qui évolue. Donc, par exemple, pour les pailles, c'était très difficile d'avoir une alternative à la paille en plastique quand on a commencé il y a 10 ans, mais 8 ans. Là. Fait que, mais là, les pailles en stainless sont arrivées. Fait que tu sais, tout d'un coup, le marché s'est ouvert à ça. Puis, il y a 2 ans, il y a un règlement qui est passé disant qu'on va être obligé d'arrêter l'usage unique non recyclable ou non compostable. Donc ça a amené les fournisseurs à nous offrir des produits qui étaient compostable ou réutilisable. Fait que ça a amélioré beaucoup la facilité d'offrir ces produits-là.
OK. Quels sont les derniers projets qui ont été faits dans votre commerce? On a vu un kiosque libre-service en bois à l'extérieur. Parlez-nous un peu de ce kiosque. À quels besoins il répond?
Ben dans le fond, j'étais avec ma conjointe là-dedans, puis Marie-Ève, elle a démarré plus la crèmerie. On l'a démarré ensemble, mais c'est elle qui s'occupait plus de la crèmerie. Moi, je m'occupe d'une ferme, dans le fond, en production biologique, principalement de la grande culture et du foin. Puis j'avais tout le temps fait des légumes que je vendais dans des grossistes qui, eux, distribuaient ça dans les restaurants ou dans les épiceries. Puis il y a 2 ans, on a décidé les kiosques qu'il y avait à Saint-Pierre ou dans les villages autour ont fermé. Fait qu'on s'est dit, OK, on va diversifier un peu plus notre production biologique. Mais on ne voulait pas investir de temps et d'argent à mettre des contenants, acheter des contenants ou etc. Fait qu'on s'est dit, on va installer notre kiosque à l'avant, puis on produit à l'arrière. Fait qu'on a juste le petit transport entre le champ et le kiosque. Fait que c'est ça, on s'est dit, il y a un besoin. Ces kiosques-là étaient là avant. Là, ils sont plus là parce que les gens ont pris leur retraite ou ils ont déménagé ou ils ont décidé de passer à d'autres choses. Fait qu'on on a essayé de combler un peu cet espace-là. Puis maintenant, ben c'est ça, on offre des fruits et surtout légumes biologiques tout l'été en libre-service.
Est-ce qu'il y a une démarche de développement durable là-dedans aussi?
Ben c'est sûr que au niveau du développement durable, l'agriculture biologique amène beaucoup parce que tu n'as quand même pas d'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. Donc c'est controversé un petit peu là sur le fait on utilise plus de diesel pour produire nos produits que quelqu'un qui est en conventionnel, mais on n'utilise pas de ce qu'on appelle les produits de synthèse, là, donc les pesticides et les engrais chimiques. Fait qu'on on est moins intensif. Donc, pour une superficie de terrain, on va produire moins de légumes. Mais n'utilisant pas ces pesticides-là, ben on a moins d'énergie qui est mise là-dedans. Fait que là, au net, je pense que c'est favorable. Mais à tout le moins, au niveau de la diversité, de la biodiversité, on est beaucoup mieux là, parce qu'on ne tue pas d'insectes. On vit avec ce qu'il y a là. On essaie d'avoir des insectes bénéfiques plutôt que d'éliminer des insectes, là. Fait que je pense que ça aide beaucoup, là.
C'est sûr, ouais. Pourquoi êtes-vous allé chercher la certification biologique? Pourquoi c'était important pour vous?
Ben, tu sais, sans ça, c'est oui, tu peux dire, OK, je produis ça de façon écologique, mais le écologique ne va pas être nécessairement la même chose pour une personne ou un autre. Tandis que quand tu vas avec le biologique, tu as une certification. Donc, il y a une entreprise qui est dans notre cas, qui est Écosserre, qui va venir, qui va faire un audit, qui va vérifier tout ce qu'on met dans nos cultures, comment est-ce qu'on a fait ça, pour être certain que la chaîne est toute là puis qu'il n'y a aucun contact avec des pesticides ou des engrais de synthèse. Puis eux peuvent certifier après ça que le produit que je vends a été produit selon ces chartes-là. Fait que ça assure que c'est pas la parole de quelqu'un, c'est vraiment certifié qu'il n'y en a pas de produit. Fait que c'est une assurance pour le client. Ça a un coût, mais nous, personnellement, on trouve que ça vaut la peine de mettre cet argent là-dessus. Là.
C'est sûr. Bonjour Louis. Moi, je me questionnais sur l'aspect social de la crèmerie. Les gens peuvent aller s'asseoir sur le terrain en arrière avec des arbres. Il y a aussi un petit parc pour les enfants et une pergola qui a été aménagée. On peut y nourrir différents animaux comme des moutons et même des alpagas. C'est très familial. Quelle était la vocation ou le but d'offrir ces services-là et pas seulement de vendre de la crème glacée?
Bon, ben, je sais pas si vous avez noté le nom de cet endroit-là. Ça s'appelle Entre fleuves et brebis. OK? Puis ça, en tant que tel, c'est que on s'est dit, nous, l'emplacement est direct sur le fleuve. Et puis, à l'origine, quand on a acheté la ferme, on voulait faire du lait de brebis. On voulait le transformer, aller faire des crèmes glacées, des produits au lait de brebis. Le projet a tourné un petit peu avec le temps. Il y avait c'était trop problématique au niveau de l'installation de l'équipement de transformation. Fait qu'on a délaissé un peu ce côté-là, mais on a toujours des brebis à chaque saison. Parce qu'à quelque part, le nom de la crèmerie, c'est Entre fleuves et brebis. Ça serait un peu niaiseux depuis de la foire. Puis, ça reste que les moutons, ça rentre dans notre système. Comme on produit du foin, souvent, j'ai des foins qui sont moins beaux, etc. Mais les moutons, eux autres, ils n'ont pas de problème avec ça. Fait que je peux lui donner ça. Puis, on avait excessivement de grands. Entre la grange et la maison, c'était bien trop de tondeuses. Fait qu'en ayant des moutons et des alpagas, on s'est sauvé bien de l'ouvrage juste en tonte. Puis les gens, on s'est rendu compte que les gens, tu sais, ils n'ont pas de tas de contact avec les animaux. Même si on est en campagne, des moutons, tu n'en vois pas partout. Des alpagas, tu ne vois pas ça à tous les coins de rue. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ils trippent, ils amènent là. Des fois, ils amènent, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont en visite. Bon, ben ils viennent visiter, puis les gens viennent voir les moutons. Puis, fait que c'est ça, c'est tout le temps un attrait. Puis ça fait quelque chose à faire. À quelque part, les gens sont là, ils prennent une crème glacée. Fait que soit ils regardent le fleuve, soit ils vont à l'arrière avec les moutons. Puis on voit vraiment la clientèle. Les touristes vont plus s'installer sur la galerie, regarder le fleuve. Puis t'as les gens du coin qui vont plus s'installer en arrière, jouer dans les modules de jeu, jouer avec les animaux, courir après les poules. Puis, tu sais, tous nos moutons ils savent c'est quoi la crème molle. Fait que là, quand les enfants se rapprochent avec le crème molle, ben ils s'en viennent pour en prendre une petite lichée. Tu sais, c'est connu. Puis c'est ça, c'est comme ça. Là, c'est bien agréable, je pense.
C'est bon. L'été, vos employés sont essentiellement des jeunes du secondaire ou qui ont été engagés alors qu'ils étaient au secondaire et qui ont décidé de rester. À part avoir de la crème glacée gratuite, c'est quoi le secret pour garder vos employés? Est-ce que vous mettez en place des choses pour leur bien-être?
Bien, tu sais, c'est certain que nous, on offre des conditions autour qui peuvent être plus intéressantes. Nous, on est très, très flexibles sur l'horaire. Donc, tu sais, d'être des jeunes... Bien, je vais dire c'est des jeunes filles parce qu'à la date, on n'a pas eu d'employés masculins, mais toutes les filles qui étaient là ont des trucs. Mettons, ils ont des games de volleyball le jeudi soir, etc. Donc, on essaye d'être l'horaire le plus optimisé possible pour ces gens-là, tu sais. Puis... dans le fond, on essaie de pas faire des grandes périodes. Si jamais il faut que la fille travaille 8 heures de temps, mais on essaie d'y donner un break où est-ce que là, on a aménagé un petit salon, si on veut, dans le sous-sol, où est-ce que là, elle peut s'en aller là une heure, prendre son petit lunch, prendre sa petite crème molle, peu importe ce qu'elle veut, puis décompresser sans être d'un client. Fait que c'est un peu là-dessus, on y va sur les conditions plus que, tu sais, puisque, mais ça fonctionne, là, on a les mêmes, il y en a qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, tu sais. Fait que c'est quand même vraiment impressionnant, là, à ce niveau-là, là.
C'est bon. Sentez-vous qu'avoir un commerce qui a le souci de réduire son empreinte écologique et de tisser des liens entre des gens a une influence sur les clients ou les gens de la communauté?
C'est sûr que ça a un certain effet au niveau de la, par exemple, de l'appropriation du coin. Ben, je vais te donner un exemple. Il y a des clients qui viennent puis qui veulent une certaine tasse ou une certaine façon de se faire servir un produit dans un contenant spécifique. Puis nous autres, on a toujours à quelque part encouragé ça. C'est la meilleure méthode pour que ça passe bien. Fait qu'il y a des gens qui veulent tel type de tasse. Puis on le sait quand ils rentrent, ils nous le demandent. Alors, je veux la petite tasse avec les petites fleurs bleues. Pas de problème. Tu vas avoir les petites fleurs bleues pour ton produit. Fait que c'est sûr que ça amène des trucs. Puis on a des clients maintenant même qui s'y restent pas. Exemple, Il y a des gens qui vont aller au village voisin, à Deschaillons, au quai ou aller à la plage, mais ils prennent un produit dans un contenant réutilisable quand même parce qu'on a des produits, par exemple, dans des pots maçons. Ils vont prendre un pot maçon, puis ils nous le ramènent, ils le lavent chez eux, ils nous le ramènent après. Fait qu'on a comme ça, il y a une habitude qui s'est prise avec les gens du coin. C'est sûr que c'est moins les touristes qui vont faire ça, mais les gens du coin sont très habitués, puis on est très à l'aise avec ça. Tu prends un contenant, tu vas aller le consommer chez vous, tu nous le ramènes dans 3 jours, c'est pas grave, là, tu sais, c'est une semaine après. Fait que l'habitude s'est créée, ils posent même plus la question. Fait que oui, je pense que c'est quelque chose qui s'est bien ancré, puis qu'on ne retournerait pas en arrière.
Qu'est-ce que toute cette démarche vous apporte en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu derrière l'entreprise?
En 2024, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tantôt. Tu sais, quand on sort 6 bacs de poubelles sur le bord de la rue toutes les semaines, puis c'est des déchets créés pour une seule crème glacée ou presque, ça devient un peu ridicule, là. Fait que de trouver des solutions autour de ça, de dire, regarde, on baisse ça, on essaie d'éliminer ça, c'est vraiment intéressant. Tu sais, je me sens mieux, tu sais, qu'avec mes enfants, quand, tu sais, qu'ils me voient qu'on sort quasiment pas de déchets. Tu sais, au niveau, mettons, il y a des produits qu'on prend pour faire des produits, mais on a même changé nos contenants pour acheter à Star en plus grosse quantité parce que le contenant est plus petit. Parce que ça devenait problématique de juste se départir des contenants, même si c'est du recyclage, ça a comme plus de bon sens à un moment donné de remplir des bacs de recyclage et des bacs de recyclage. Donc, tu sais, on n'est plus à l'aise avec ça d'avoir baissé ce taux-là. Et financièrement aussi, tu sais, c'est difficile de quantifier le coût d'un lavage, mais c'est clair qu'on a changé de lave-vaisselle il y a 2 ans parce que ça devenait, les filles trouvaient ça un petit peu trop long laver. On a mis un lave-vaisselle un peu plus commercial, très rapide. Puis là, ils se battent quasiment pour faire la vaisselle. C'est le truc le plus le fun qu'il n'y a pas. Fait que, tu sais, le coût de ça, c'est clair que c'est vite amorti si on prend des contenants à 50 sous chaque. Ça va très, très vite, là. Fait que financièrement, c'est un choix logique. Puis c'est beaucoup plus le fun de sortir moins de poubelles au chemin chaque semaine.
Ouais. Avez-vous d'autres projets que vous aimeriez développer dans le sens du développement durable ou d'autres choses que vous avez en tête s'il n'y avait pas de frein?
Dans le fond, puis c'est un peu une primeur, là, c'est pas fait encore, mais on est en processus de discussion pour regarder si on va pas mettre un rabais aux gens qui prennent du réutilisable. Parce que c'est un peu plate, mais en ce moment, si je vais donner des chiffres par exemple, mais s'il y a 50 % des gens qui prennent du réutilisable, 50 % qui prennent du jetable. Le jetable, on le paye à toutes les fois. Mais à quelque part, c'est que tout le monde paye pour le jetable. Alors que les clients qui prennent du réutilisable, eux autres, ils ne nous coûtent rien. Mais pourquoi pas refiler un rabais aux clients? Dire, OK, monsieur, madame, vous avez pris un contenant réutilisable, bien vous avez un crédit de 50 sous sur votre facture. Versus l'autre personne qui va prendre des contenants jetables, bien lui, il va payer le plein prix. Fait que là, on est en train de regarder, voir si on va pas le faire. On pense que c'est une technique un peu plus positive que de dire on va mettre un frais quand tu prends du jetable. Fait que là, on est en processus, là, c'est pas tout à fait décidé, mais probablement qu'on va y aller.
Quel a été le déclic majeur pour partir cette belle crèmerie?
Bien, ça est devenu, c'est venu d'un constat. Nous, on reste en face d'une, il y avait une espèce d'halte routière déjà présente. Puis là, on est des gens qui venaient pas de Saint-Pierre. Là. Moi, je suis du Lac-Saint-Jean, ma conjointe est de Trois-Rivières. Puis là, on voyait ça, puis il y avait des motos, des cyclistes, des piétons. Tout le monde s'arrêtait là, mais il y avait rien en tant que tel là. C'est comme juste un espace sur le bord de l'eau. Fait que là, on s'est dit, ah, pour tous ces touristes-là qui peuvent passer, tu sais, ça serait peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir qui pourrait être intéressant. Puis là, on s'est dit, ah, moi, la crème glacée, tu sais, ben maniaque de ça, puis ma blonde aussi. Fait qu'on s'est dit, OK, on s'essaye là-dedans. Fait que nous, au début, on s'est dit, ça va être 80 % de touristes, puis tu sais, un 20 % des gens locaux qui vont s'installer, qui vont venir prendre une crémole. Mais dès la première année, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est beaucoup plus proche du 50-50, c'est pas 60 % de gens locaux. Et quand je dis locaux, je veux dire à peu près tous les gens qui viennent à l'école des seigneuries, là, tous les villages autour qui viennent virer à la crèmerie. Fait que, avec les années, on a répondu, tu sais, on a toujours eu des animaux parce que c'était entre fleuve et brebis, on a toujours eu des brebis. Mais là, on a mieux aménagé ça. On a mis des petites pancartes, on a mis des jeux pour les enfants parce que, à quelque part, une crèmerie, c'est quelque chose de familial. Fait qu'on a mis des tables à pique-nique, on a installé, tu sais, la pergola, tous ces trucs-là. Ça a tout venu par après parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens locaux qui venaient juste, des fois, après souper, prendre leur dessert. Puis qui s'accrochaient les pieds en jasant avec des gens qu'ils ne voyaient pas souvent ou des amis des enfants, puis qui passent la soirée là. Fait que tant qu'à être là, aussi bien d'être bien installé.
Vous avez raison.
Êtes-vous heureux de l'ambiance que ça a créé dans votre crèmerie?
Tu sais, l'ambiance, on essaye de mettre des trucs comme pour en créer une, mais c'est à quelque part les gens, les clients qui créent l'ambiance à travers tout ça. Oui, je pense qu'il y a une belle ambiance parce que, mettons, ma cour est séparée pour pas que mes enfants sortent. Puis la première affaire, quand l'été commence puis la crèmerie arrive, ce qu'ils veulent aller, c'est dans la cour de la crèmerie qui est juste à côté. Fait que c'est plus assez le fun chez nous, c'est mieux dans la cour de la crèmerie. Donc, je pense que oui, il y a une belle ambiance qui est agréable, mais c'est à quelque part, c'est les clients. Puis on met juste comme des trucs pour faciliter un peu cette ambiance-là, qui sont les pergolas, les animaux, etc. Puis en même temps, c'est un challenge à chaque année, essayer d'amener un petit quelque chose de nouveau, amener un petit truc, tu sais, pour pas qu'on reste en même temps, tout le temps au même endroit, essayer d'avancer toujours un petit peu là, avec ça. C'est un défi à quelque part.
Merci d'avoir merci beaucoup pour la vie sociale que vous apportez dans le village, pour toutes vos initiatives en développement durable et pour votre bonne crème glacée.
Merci.
Vous l'aurez compris, implanter le développement durable dans son organisation, ça ne se fait pas en criant « ciseaux ». Les efforts que comprend cette démarche méritent d'être soulignés parce que nous espérons que ces exemples inspirent d'autres entreprises ou organismes à suivre le pas. Nous souhaitons que notre balado vous sensibilise, mais surtout que ces personnes qui ont travaillé fort pour créer un monde meilleur vous amènent à réfléchir à ce que vous pouvez faire vous aussi. Même si vous commencez seulement par un petit geste, vous faites déjà une grosse différence dans la vie des générations futures. Au nom de tous les élèves de la brigade de l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets, merci de nous aider à créer un bel avenir. Et encore une fois, merci à notre partenaire principal, la Fondation Alcoa, qui a rendu possible la réalisation de ce balado. Un merci tout spécial à l'école secondaire Les Seigneuries pour leur support et leur accueil, à Marlène Dubois, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, Natacha Pelletier, à la coordination et réalisation, Via 95 pour l'enregistrement du balado, et surtout, merci à vous pour votre écoute.